Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Bénin, l'opposante Réki Amadougou, écrouée en mars avant l'élection présidentielle, a saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. Le 28 juillet, l'un de ses avocats a déclaré qu'elle était détenue dans des conditions inhumaines, dans une cellule de 10 mètres carrés, avec 12 autres femmes et 4 enfants. Maître Antoine Veil a estimé que la procédure engagée contre elle était politiquement motivée. L'ancienne ministre, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée, a été arrêtée lors de la campagne électorale. Elle est accusée d'avoir voulu faire assassiner des personnalités politiques. Quelques jours avant le scrutin, un juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fui le pays, dénonçant des pressions exercées par le pouvoir dans l'incarcération de Madame Amadougou. Au Soudan du Sud, la secrétaire générale du parti au pouvoir, Gemma Nunukumba, devient la première femme à présider le Parlement après sa nomination par le président Salva Kiir le 23 juillet. Madame Kumba a rejoint au début des années 90 les rebelles du SPLM dans la guerre civile contre Khartoum et a participé aux négociations de paix sous Omar el-Béchir. Après l'indépendance en 2011, elle a été gouverneure de l'État d'Équatoria occidental. En application de l'accord de paix de 2018 entre Salva Kiir et Riek Machar, aujourd'hui président et vice-président au sein du gouvernement d'Union nationale, le Parlement a été reconstitué en mai 2021. Les Émirats arabes unis ont sélectionné pour la première fois une femme astronaute dans le cadre de leur programme spatial. Nora Al-Matrouchi, 28 ans, rêvait de voyager dans l'espace depuis toujours. Avec son compatriote Mohamed Al-Moula, elle ira aux États-Unis cette année pour s'entraîner au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas. Les Émirats comptent devenir le premier pays arabe à explorer Mars. Ils ont lancé en 2020 la sonde Hope sur la planète rouge. Ce projet a été chapeauté par la ministre des Technologies avancées, Sarah Al-Amiri, présidente de l'agence spatiale de ce pays du Golfe.
Parole de femme.
Dans la région de l'est du Cameroun, les femmes des villages aurifères se plaignent du changement de leur mode de vie et se sont regroupées pour défendre leurs intérêts. Des plaintes consécutives à l'exploitation semi-mécanisée de l'or qui a une emprise sur les espaces cultivables et les cours d'eau. C'est notamment le cas du village Ndemde dans l'arrondissement de Batouri où sont installées des sociétés minières chinoises pour la plupart. Notre correspondant Emmanuel Juntap s'y est rendu.
Un groupe de femmes du village Ndemde converge vers un vaste espace dévasté par les engins et désormais traversé péniblement par un petit cours d'eau. À leur tête, Jacqueline Doua, l'épouse du chef du village. Elles ont comme point de chute le lieu d'Imvindi, au bord du cours d'eau appelé Mbil.
C'était un endroit où nous on faisait le champ. Et dès que les Chinois sont arrivés, c'est là où ils ont donc pris cette place pour travailler leur suisse.
Jacqueline Dewa, épouse du chef du village Ndemdeu.
Maintenant, il n'y a plus là où on peut pêcher le poisson, ni aller au champ, il n'y a plus de passage. Donc nous sommes bloqués actuellement. Nous-mêmes, on n'arrive même plus à bien vivre comme on vivait avant, travailler comme on trouvait de l'argent pour inscrire nos enfants à l'école. Tout ce qu'on avait envie, on n'arrive plus à le faire parce que les Chinois nous ont tout pris nos parcelles.
Depuis 2 ans, des sociétés chinoises ont dévasté les terres cultivables au profit de l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Naomi Angama, une cultivatrice âgée de 40 ans.
Le champ était à 2 hectares comme ça. On a tout arraché. On m'avait dit qu'on paye le terrain. On ne paye pas le champ. Le terrain là, ils m'ont donné rien que 100 000 seulement. Jusqu'aujourd'hui, je continue même à payer le manioc, les riz pour garder mes enfants et mes petits-fils.
Léontine Anga est orpailleuse artisanale. Elle fait aussi partie des femmes du village Ndemdeu, victime de l'attribution de parcelles villageoises aux sociétés aurifères, sans le consentement préalable des communautés.
On avait là où creuser, quand les Chinois sont arrivés, là où on creusait le trou avant, on nous chasse. Maintenant, ce n'est plus facile de trouver l'argent. On ne sait pas comment vivre.
Au Cameroun, la loi foncière donne droit à l'État d'attribuer les terres non titrées, y compris celles dites coutumières, au projet de développement. Jacqueline Dewa, épouse du chef du village Ndemdeu, dénonce les abus engendrés par cette loi sur le quotidien des femmes.
Quand on vient, on te trouve toi une femme, tu es au champ, on dit, voilà une somme de 50 000, 30 000. Tu ne peux pas refuser parce que quand on dit là, ça vient de Yaoundé.
Le malaise des femmes est plutôt grandissant au village Ndemdeu. Elles se sont organisées pour défendre leurs intérêts et ont porté leurs plaintes auprès des ONG de défense et de protection de l'environnement, ainsi que du respect des droits des communautés. Au bord d'une crise foncière, le chef du village Ndemdeu, Bernard Bel-Ada, accuse le jeu trou de l'administration.
Si le chef va vers l'exploitant, dire que bon, voilà, vous êtes en train de détruire ceci, et chercher à résoudre, l'administration vient plutôt dire que le gouvernement a telle position et c'est comme ça.
Les responsables de la principale société chinoise qui exploite l'or au village Ndemdeu et les autorités administratives compétentes de la commune de Batouri n'ont pas souhaité se prononcer sur la détresse de ces femmes qui durent depuis 2 ans. Emmanuel Jumta, de retour de Ndemdeu, VOA Afrique.
En Guinée, l'implication des femmes dans l'économie du pays est nettement perceptible. Depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'une classe de femmes fortement mobilisées vers les petites et moyennes entreprises. Dans la capitale, elles sont nombreuses à avoir des activités dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. Zakaria Camara est allée à la rencontre de 2 patronnes à Conakry.
Firsi est une marque issue d'un projet d'incubateur pour l'autonomisation des femmes initié il y a environ 4 ans. La marque est certifiée et protégée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Tout un parcours pour sa créatrice, Madame Yansané Fatou Baldé.
Donc c'était des étapes très très longues et difficiles, puisqu'il fallait que moi-même je puisse d'abord maîtriser le procédé chimique de la teinture, et de ce procédé chimique équilibrer les ingrédients, fixer la couleur, la stabiliser, ensuite aller former les femmes, et ensuite passer à l'aspect beaucoup plus commercial. Donc ça a pris du temps et on est encore sur les performances parce que vous savez la perfection c'est un chemin qu'on n'atteint jamais, mais en restant sur ce chemin, un jour vous allez pouvoir être perfectible.
Avec ses 180 employés, Firsi c'est aussi un combat pour la cause des femmes. De la confection à la commercialisation, l'entreprise divulgue des messages appelant au respect des droits de la femme et de son autonomisation.
Derrière ces avis qui sont exposés, il y a toute une entreprise sociale qui a donc fait ce lien avec la scolarisation de la jeune fille en termes d'accroissement des revenus des mamans et leur engagement au maintien des filles à l'école. Il y a leur éducation donc de cette teinturière-là au respect de l'écosystème. Avec cet espace de confection Firsi, on arrive à passer beaucoup de messages parce que il faut pas vous leurrer quand on parle de respect des droits des femmes. Ça commence d'abord par leur capacité à subvenir à leurs besoins, donc leur autonomisation.
Malgré les difficultés d'accès aux services financiers, de nombreuses femmes excellent dans les activités de commercialisation des produits locaux. Mila Duis, évolue dans la transformation des fruits, des légumes et des épices. Une entreprise qui n'a pas été lancée au hasard, selon Jamila Gueye, diplômée en management des ressources humaines, directrice générale.
Nous sommes beaucoup plus connus pour les boissons et la purée de piment que nous faisons. Nous avons créé l'entreprise officiellement en 2017. L'objectif de création est d'abord financier. Ensuite, c'est la valorisation du contenu local, la création d'emplois. C'est également une façon pour moi de contribuer à la diminution du gaspillage des fruits et légumes et ma participation au développement économique de mon pays.
Jamila fait partie des patronnes qui créent des emplois en Guinée, qui évoluent dans presque tous les domaines d'activité économique. Et même si on peut créer son entreprise en moins de 72 heures, l'accès au financement reste un obstacle pour la majorité des femmes guinéennes, malgré les efforts du gouvernement. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
La chanteuse américaine Pink a proposé de payer une amende infligée à l'équipe féminine norvégienne de handball de plage pour avoir porté des shorts plutôt que les bikinis réglementaires lors de son dernier match de l'Euro 2021 en Bulgarie. La commission disciplinaire de la Fédération européenne de handball a sanctionné les joueuses d'une amende de 1 500 €. Estimant que c'est la fédération qui devrait payer une amende pour sexisme, la popstar félicite sur Twitter les handballeuses pour avoir protesté contre ces règles vestimentaires et les encourage à continuer la lutte. Après une multitude de réactions outrées provoquées par la décision, la fédération européenne a dit avoir fait don de l'amende à une fondation qui soutient l'égalité homme-femme dans le sport. La fédération norvégienne bataille depuis des années pour que ces joueuses du beach handball puissent porter des tenues plus confortables et moins légères que le bikini qu'elles jugent dégradant. Un Burkinabé, un arbre, c'est le nom d'une initiative citoyenne au Burkina Faso visant à empêcher l'avancée du désert dans ce pays sahélien. Un groupe de jeunes se sont lancés dans ce projet de plantation d'arbres pour la protection de l'environnement. Un reportage de Lamine Traoré.
Le mouvement est spontané et citoyen. Des passionnés de l'environnement se sont regroupés autour de l'initiative Un Burkinabé, un arbre.
Ce mouvement est né d'un constat simple.
Burema Sanga, magistrat, est le promoteur du mouvement Un Burkinabé, un arbre.
Notre pays, le Burkina Faso, est un pays sahélien. Nous, en tant que jeunes, on est interpellés. Alors donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour limiter, arrêter carrément l'avancée de ce désert. Donc nous sommes allés d'un calcul simple qui consiste à dire que si chaque Burkinabé plantait un arbre et décide de l'entretenir, d'ici la fin de l'année, on peut se retrouver avec 21 millions de plantes, représentant en fait le nombre de la population du Burkina Faso. C'est vrai que c'est vraisemblable d'avoir 21 millions de plantes pour un premier essai. Mais nous nous sommes dit que si les gens s'engageaient, s'ils adhéraient, à la fin de l'opération, on peut se retrouver avec au minimum 1 million de plants.
Adèle Madiega, promotrice d'une ferme, a adhéré au mouvement.
Vraiment, j'ai épousé l'idée de ce mouvement parce que je suis simplement une passionnée de la nature, je suis une passionnée de l'arbre qui dit arbre parle de vie en réalité. Alors nous sommes un pays sahélien, il ne faut pas l'ignorer et nous savons actuellement ce que nous subissons parce que cette année vraiment ça a été une année très très difficile vu la canicule qu'il a fait et tout ça c'est dû à quoi? C'est dû au réchauffement climatique, dû au fait que nous n'ayons pas assez de plantes. Un Burkinabé, un arbre, je me suis sentie vraiment responsable, je me suis sentie vraiment impliquée, je me suis sentie interpellée par ce mouvement parce que si toutefois chaque Burkinabé arrivait vraiment à planter, il ne serait-ce qu'un seul arbre et l'entretenir, je pense qu'on va beaucoup apporter à ce pays-là.
Le mouvement Un Burkinabé, un arbre est soutenu par les autorités du pays. Bernard Tarsoba, directeur des forêts et de la réforestation au ministère de l'Environnement.
Nous apprécions positivement cette initiative. Le constat est très amer par rapport à la situation de nos forêts. Il faut se dire que durant les 20 dernières années, les superficies forestières du pays ont diminué à un rythme moyen compris entre 110 500 et 160 000 hectares par an. Raison pour laquelle le gouvernement a institué en juillet 2018 la Journée nationale de l'arbre, qui vise à améliorer les performances des campagnes de reforestation à travers une approche basée sur la sécurisation des sites de reboisement, la promotion des espèces locales utilitaires mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques et aux besoins des populations, un meilleur suivi des plans mis en terre.
Le lancement de un Burkinabé, un arbre a été fait à Waiguya au nord du pays, à près de 200 km de Ouagadougou. Et Yacouba Sabadogo, prix Nobel alternatif, soutient l'initiative. Il a planté un baobab dans sa forêt qu'il entretient depuis des décennies. Les organisateurs pensent que le reboisement ne nécessite pas beaucoup de moyens. Ils incitent les Burkinabés à planter des arbres, mais aussi à les entretenir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La jeune entrepreneure sénégalaise Binetta Ngom veut évangéliser les jeunes à la crypto-monnaie et la technologie blockchain. En tant que leader de l'une des premières communautés blockchain du Sénégal, sa compagnie Bleu comme la mer est une des premières sociétés du pays à accepter le bitcoin. Dans son entretien avec Arzuma Compaoré, elle parle de sa passion pour les crypto-monnaies et de son rêve pour l'Afrique.
La blockchain, c'est une technologie qui se différencie de ce qu'on a connu comme technologie jusqu'à aujourd'hui grâce à sa décentralisation, aussi sa désintermédiation. Donc là, je veux dire bien sûr le fait que des transactions puissent se faire de pair à pair sans intermédiaire, sans pour autant que quelqu'un au milieu puisse décider est-ce que la transaction peut se faire ou pas.
Aujourd'hui, on parle de NFT. Alors, c'est quoi les NFT?
Alors, les NFT, c'est les non-fungible tokens. Donc, ce sont des tokens qui ne sont pas remplaçables. Quand on est allé au meet-up de Saint-Louis, on a rencontré un tonton là-bas qui faisait des sculptures sur des calebasses. Donc, il avait une technique unique à lui qui lui permettait de faire ces sculptures-là sur des calebasses. Alors, comment un NFT pourrait lui permettre de vendre sa création? C'est qu'il pouvait utiliser cette création-là, les transformer en NFT et les vendre. Donc, il vendra des objets d'art uniques en leur genre qu'une seule personne pourrait acheter et posséder. Tu ne peux pas posséder un NFT et avoir le double du NFT. Donc, ils sont uniques en leur genre.
Alors, aujourd'hui, Binet a créé Bleu comme la mer. Qu'est-ce que Bleu comme la mer fait?
Bleu comme la mer est une entreprise de vente de produits halieutiques et de produits maraîchers. Pour le moment, on ne fait que la vente directe avec une particularité. On accepte les paiements en Bitcoin, en Ethereum et en Tezos. C'est d'ailleurs la première entreprise en son genre, tout commerce confondu ici au Sénégal, qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Je vois une Afrique d'ici les 10, 20 prochaines années être semblable au Wakanda, ou bien Wakanda, je sais pas, au Wakanda. Donc, je veux vraiment une Afrique comme ça, une Afrique qui est basée sur de nouvelles technologies, que ça soit sur la blockchain, que ça soit les intelligences artificielles, que ça soit les IoT, toutes les technologies qui vont être exploitées ici en Afrique et on aura une Afrique vraiment digne du pays de Wakanda.
En France, un imam comorien a été suspendu après des propos discriminatoires envers les femmes lors de l'Aïd el-Kébir à Saint-Chamond. Le contenu du prêche incriminé a été jugé contraire à l'égalité femmes-hommes, selon la préfète du département de la Loire, Catherine Séguin. Alors qu'il s'exprimait devant des centaines d'hommes le 20 juillet, l'imam Mahdi Hamada de la mosquée d'Attaquois demandaient aux femmes d'obéir à leur mari, de rester au foyer, de ne pas s'exhiber ou être complaisantes et de ne pas céder à la corruption et aux vices.
Entre parenthèses.
Au Bénin, le directeur d'une grande entreprise a été condamné par la cour d'appel de Cotonou à verser une amende de 15 millions de francs CFA à une de ses employées pour harcèlement sexuel en milieu professionnel. Un phénomène qui a pris des proportions inquiétantes, surtout dans le monde des médias, rapporte notre correspondante à Cotonou, Ginette Floradandé.
Il y a encore 2 ans, personne n'osait évoquer le phénomène du harcèlement sexuel dans le milieu des médias. Pourtant, le phénomène existe et fait rage. Angela Pedja, journaliste à la télévision nationale, fatiguée de subir l'attrait à la face du monde, s'attirant la foudre de ses confrères et consoeurs, l'accusant d'avoir provoqué une telle situation. Le harcèlement sexuel dans les médias est subtil et peut passer comme la volonté du chef de voir son employé gravir les échelons. Priscilla a été obligée de se retirer du métier. Exaspéré d'être assuré.
Quand ton patron te fait la cour, tu refuses. Systématiquement, c'est des menaces. Systématiquement, c'est des représailles. Systématiquement, on t'empêche d'aller sur le terrain. On te confie ce qu'on appelle dans notre jargon des chiens écrasés. On t'empêche de t'épanouir au boulot. Et vous vous imaginez, c'est du directeur de la télévision, du directeur général, du rédacteur en chef, son adjoint, au simple collègue de la rédaction. Et ils ne veulent pas savoir si vous voulez ou pas.
Au sein même de la corporation, les avis sont partagés sur l'existence du phénomène. Pour beaucoup, des femmes de surcroît, celles qui se disent harcelées sont pour la plupart du temps responsables de leur malheur.
Bon, les hommes provoquent, mais c'est à toi de dire non.
Elle végète dans la paresse. Elle ne peut que se faire harceler par l'homme parce qu'elle veut quelque chose. Avant que le monsieur lui donne, il faut qu'il ait. Nous sommes sur un terrain de gagnant-gagnant.
Moi, je pense que les responsabilités doivent être partagées.
La plupart des femmes qui ont pris par ce métier et qui ont été traitées de la sorte ne s'en sont pas sorties aussi facilement ou avec le bagage qu'il faut pour pouvoir faire le métier.
Pour le psychosociologue Raoul Serebé, on ne devrait pas se servir de l'excuse de l'abîme d'une femme ou de sa provocation pour justifier un acte aussi répréhensible que le harcèlement. Pour lui, la lutte contre ce phénomène qui détruit silencieusement des vies demande la collaboration des victimes.
Ce n'est pas parce que la personne qui est harcelée fait preuve d'une certaine largesse ou attire d'une manière ou d'une autre que cela donne de raison au harceleur d'aller vers lui. Pour pouvoir remédier à ce phénomène qu'est le harcèlement, les gens doivent déjà passer par la dénonciation et permettre à nos autorités de prendre des mesures drastiques pour pouvoir y remédier parce que cela se fait de plus en plus remarquable dans nos sociétés, surtout professionnelles.
Aujourd'hui, avec le recul, les associations fêtières ont compris l'urgence de lutter contre le phénomène et appellent à une salubrité dans le milieu afin que les femmes puissent travailler en paix. Zakia Klatoudi est la présidente de l'UPMB, l'Union professionnelle des médias du Bénin.
Et j'espère que les sanctions vont véritablement tomber et amener à décourager tous ces hommes-là qui se comportent de la sorte et qui ne favorise pas vraiment qu'il y ait un environnement de travail adéquat qui facilite l'épanouissement de la femme au travail.
Il faut dire qu'au Bénin, la loi interdit toute forme de harcèlement sexuel et offre une protection à la victime. Le harcèlement sexuel est un délit punissable et la personne reconnue coupable de harcèlement est passible d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. De Cotonou, Ginette Floradandé pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.